un œil là-dedans.
Boxer se contenta d'un regard dédaigneux en direction du trou béant. Passe-moi ta lampe de poche. Boxer détacha la torche jaune de l'anneau qui pendait à sa ceinture et la tendit au contremaître, qui l'alluma. En plus, elle marche ! S'émerveilla-t-il d'un air faussement surpris, avant de passer la tête dans l'ouverture. Il avait l'air d'un parfait idiot comme ça, sur la pointe des pieds, au sommet de ce tas de gravats, la tête et le torse dans le trou. Il prononça quelques mots qui se perdirent dans les profondeurs de l'excavation, puis ressortit la tête.
On dirait un tunnel souterrain.
Il s'essuya le visage, laissant sur sa joue une longue traînée noire.
Qu'est-ce que ça pue là-dedans?
T'as trouvé le jumeau de Toutankhamon?
Demanda l'un des ouvriers. La plaisanterie fit rire tout le monde, excepté Boxer qui n'avait jamais entendu parler de ce Toutan machin.
En tout cas, croisons les doigts pour que ce ne soit pas un site archéologique quelconque,
reprit le contremaître avant de se tourner vers Boxer.
Toi qui es grand et fort, Pee-wee, va voir un peu ce qu'il y a là-dedans.
Boxer reprit sa lampe de poche et, sans un regard pour les poules mouillées qui l'entouraient, escalada le tas de briques et s'enfonça dans le trou ouvert par le bulle. À genoux dans les gravats, il commença par faire courir le faisceau de sa lampe sur les parois, découvrant un tunnel étroit. Des fissures le long des murs et du plafond dévoilaient la précarité de l'édifice. Il marqua une hésitation.
« Alors, tu vas ou il faut qu'on te pousse ?»
lui cria la voix du contremaître. Un manœuvre en profita pour ajouter, prenant un ton géniard.
« Je ne peux pas, le syndicat est pas d'accord. »
Tout le monde éclata de rire, et Boxer se décida à avancer. Des briques jonchaient le sol du tunnel, et Boxer trébucha, soulevant des nuages de poussière. Parvenant tant bien que mal à retrouver son équilibre, il éclaira devant lui, mais sa torche avait du mal à trouer l'obscurité. Il attendit que la poussière retombe et que ses yeux s'habituent au noir. Les voix et les rires de ses collègues lui parvenaient faiblement, comme étouffés. Il fit quelques pas, faisant courir le pinceau de sa lampe autour de lui. De minuscules stalactites pendaient du plafond, et une bouffée d'air âcre le frappa au visage. Sans doute un rat crevé. Le souterrain était vide, à l'exception de quelques vieux morceaux de charbon. Le long des parois, il discerna une série de niches voûtées d'un mètre de large sur 1,50 m de haut, toutes grossièrement bouchées à l'aide de briques cimentées. Les murs étaient luisants d'humidité et des gouttes d'eau s'écrasaient régulièrement sur le sol avec un petit bruit mat. Le silence qui enveloppait Boxer semblait le couper du reste du monde. Il fit encore un pas, éclairant le plafond et les murs avec sa torche. Les fissures allaient en s'élargissant, et des pierres s'étaient même détachées de la voûte. Il jugea plus prudent de reculer, et ses yeux rencontrèrent à nouveau la longue litanie des niches murées. Il s'approcha prudemment de la première, et constata qu'une brique s'était détachée. Curieux, il se demanda si on avait pu y cacher quelque chose, ou si les alcôves s'ouvraient simplement sur d'autres galeries. Il éclaira le trou sombre laissé par la brique manquante, sans parvenir à dissiper l'obscurité. Il passa la main et en décela une autre sans grande difficulté, provoquant une pluie de chaux. Il recommença avec une deuxième, puis une troisième. La même odeur âcre l'assaillit à nouveau, nettement plus forte que tout à l'heure. Cette fois, il pouvait passer sa lampe dans le trou élargi et il découvrit un autre mur de brique, 1 mètre plus loin. Balayant le bas de la cavité avec sa torche, il entrevit ce qui ressemblait à une assiette de porcelaine. Il se recula un instant, les yeux rougis par l'air nauséabond. Une sensation de peur diffuse se mêlait à son envie d'en savoir davantage. La niche renfermait quelque chose, c'était certain. Sûrement quelque chose de précieux, sinon pourquoi avoir pris la peine de la murer? Un jour, en démolissant une vieille baraque, un de ses copains était tombé sur un sac de pièces de 1 $ en argent. Il y en avait pour pas mal de fric, et il avait pu s'acheter un petit tracteur tout neuf pour tondre sa pelouse. S'il trouvait quelque chose d'intéressant là-dedans, il avait bien l'intention de le garder pour lui tout seul. Que les autres aillent se faire voir. Il déboutonna sa chemise, se couvrit le nez avec son t-shirt et enfonça sa lampe au fond de la cavité, avant de passer résolument la tête et les épaules pour en avoir le cœur net. Il se figea aussitôt. Puis, relevant brusquement la tête, il se cogna contre la voûte et laissa échapper sa lampe au fond du trou avant de s'enfuir dans le noir. Dans sa hâte, il buta sur les gravats qui jonchaient le sol et s'étala en poussant un cri. Le silence était opaque et une poussière invisible tournoyait autour de lui. Entrevoyant enfin une faible lueur à l'autre extrémité du souterrain, il se remit debout, haletant, cherchant désespérément la sortie, glissant sur les briques, trébuchant à chaque pas, se retenant comme il le pouvait. Il finit par émerger du trou comme un diable de sa boîte, s'affalant la tête la première sur le petit monticule qu'il avait dû escalader pour pénétrer dans le boyau. Les rires qui avaient accueilli sa sortie se turent aussitôt. Un court instant de silence, et tout le monde se précipita vers lui pour l'aider à se relever dans une cacophonie de questions.
« Mais bon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?»«
Il est blessé !» cria quelqu'un. « Il a du sang partout ! Reculez !»
Boxer tentait tant bien que mal de reprendre son souffle et de calmer les battements de son cœur.
« Ne le déplacez surtout pas, qu'on appelle une ambulance !»«
Tu crois que ça s'est écroulé là-dessous ?»
Ignorant les interrogations qui fusaient de toutes parts, Boxer parvint finalement à s'asseoir, après avoir longuement craché la poussière qui lui bloquait la gorge.
« J'ai trouvé des os, »
murmura-t-il.
« Des os ? Qu'est-ce que tu veux dire ?
Il ne sait même plus ce qu'il dit. »
Boxer retrouvait peu à peu ses esprits. Il regarda ses collègues longuement, le visage maculé de sang.
« Des crânes et des ossements. »
Eut-il juste le temps de souffler avant de s'évanouir sous le soleil. Chapitre 2. Depuis la fenêtre de son bureau, au troisième étage du Muséum d'Histoire Naturelle de New York, Nora Kelly apercevait Central Park, par-delà les toits de cuivre, les coupoles, les minarets et les tours gothiques du bâtiment. Ses yeux se posèrent un instant sur les immeubles de la 5e avenue montant la garde au loin, dorés par la lumière d'automne. Aujourd'hui, la beauté du spectacle la laissait indifférente. C'était presque l'heure de son rendez-vous. Elle réprima une bouffée de rage avant de se reprendre. Elle allait avoir besoin de toute son énergie. Depuis 18 mois, son budget de recherche n'avait pas été augmenté. Dans le même temps, elle avait vu passer de 3 à 12 le nombre de vice-présidents du muséum, et quand on sait qu'ils étaient tous payés 200 000 $ par an... Elle avait également vu le service communication, autrefois une sinécure pour journalistes vieillissants, se transformer en une ruche bourdonnante d'attachés de presse aux dents longues, dépourvue de toute connaissance scientifique ou archéologique. Elle avait surtout assisté à la mutation radicale du muséum, avocats et gestionnaires prenant progressivement le relais des enseignants et des chercheurs. La moindre pièce un peu spacieuse avait été transformée en bureau pour hauts fonctionnaires zélés, et l'argent servait dorénavant à monter des opérations censées récolter des dons qui alimenteraient à leur tour d'autres opérations similaires en une spirale infernale et parfaitement stérile. Nora tenta de se rassurer en se disant qu'elle avait la chance de travailler pour ce qui était encore le plus grand muséum d'histoire naturelle de la planète. Après l'échec de ses dernières recherches, en particulier son expédition archéologique en Utah et le projet avorté du musée Lloyd, elle avait plus que jamais besoin de ce job. Elle s'éloigna de la fenêtre et embrassa son bureau du regard. Il lui fallait impérativement de l'argent pour faire aboutir ses recherches sur les liens entre la civilisation aztèque et les peuplades Anasazi. En particulier, faire dater au carbone 14 les 66 échantillons rapportés de ses fouilles de l'été précédent en Utah. Elle avait fait le calcul. Il y en avait pour 18 000 $. Mais c'était indispensable si elle entendait poursuivre ses travaux. Elle avait l'intention de demander sans plus attendre un crédit exceptionnel. Pour la renégociation de son budget, elle aviserait plus tard. Il était l'heure d'y aller. Elle sortit de la pièce et emprunta un escalier étroit jusqu'à l'étage supérieur, celui de la direction, comme l'indiquait l'épaisseur des portes, ainsi que celle de la moquette. Elle s'immobilisa un instant devant le secrétariat du premier vice-président et prit le temps d'ajuster son tailleur gris, consciente que la réussite de sa démarche dépendait en grande partie de son élégance. Adoptant une expression de neutralité souriante, elle poussa la porte. La secrétaire était sortie déjeuner et Nora s'avança bravement vers le bureau du premier vice-président, le cœur battant. Il lui fallait...